Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vase d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Aujourd'hui, nous finissons cet enseignement par la grâce de Dieu. Je vais donc faire un balayage un peu de ce qu'on a dit depuis le début et puis conclure sur les points que je n'ai pas achevés. Mais juste pour que ces choses-là soient pleinement marquées dans notre esprit, dans notre entendement. Dis avec moi encore la fidélité. La fidélité. Alors, pendant cette période, Dieu nous a fait ressortir l'importance de la fidélité. Amen. L'importance de la fidélité dans tous ces différents aspects. Combien de fois c'est important pour entrer dans notre destinée? Dieu te connaît, mon frère, avant même ta naissance. Dieu te connaît, ma sœur, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Et parce que tu es un esprit. Le corps qui est une enveloppe que tu prends dans le ventre de la mère, c'est là que tu es formé, pas créé. Tu es créé avant. Et Dieu, lorsqu'il t'a créé, a déposé en toi des œuvres, une vision. Donc, il dit à Jérémie, c'est avant que tu ne naisses, je t'avais établi prophète. Toi aussi, Dieu a établi quelque chose avant que tu ne naisses. Il se trouve qu'à la naissance, tu oublies ces choses. Tu ne sais plus ce à quoi Dieu t'a appelé. Or, tu ne peux être épanoui que lorsque tu réalises ce pourquoi tu es né. Tu peux réussir dans d'autres domaines, mais ça ne veut pas dire que tu seras épanoui pour autant. L'épanouissement, c'est le bonheur de tous côtés, c'est l'équilibre total. Alléluia. L'épanouissement, c'est de faire exactement ce pourquoi tu es là. Amen. Il y a certaines choses que vous savez faire et que vous pouvez faire même de manière excellente, mais ce n'est pas forcément votre destin. Alléluia. Tu es né pour quelque chose, mais peut-être qu'à côté, tu peux être un très bon musicien. Peut-être qu'à côté, tu peux être un bon footballeur. Tu peux avoir d'autres compétences. Mais ce sont des éléments, ce sont des accessoires qui ne font qu'embellir ta fonction de base. Alléluia. Il y a beaucoup de téléphones qui servent à téléphoner, qui servent à appeler. Il y en a beaucoup. Pourquoi je prendrais un particulièrement? C'est non seulement pour appeler, mais parce qu'il a d'autres accessoires autour qui m'arrangent. Donc, les accessoires ne sont pas le but, mais ils permettent d'embellir, ils permettent de profiter au maximum d'une vision. C'est pareil. Mais si vous détournez si vous détournez de la vision originelle pour passer le temps seulement à faire les autres choses, vous ratez le but. Et c'est comme ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas épanouies. Elles ne sont pas épanouies parce que quelquefois, elles se concentrent sur des choses qu'elles savent faire. Et elles croient que c'est simplement leur destinée. Quelqu'un, il a pris son cellulaire portable parce qu'il fait des calculs là-dessus. Maintenant, il ne téléphone plus. Quand on dit 10 fois 10. Voilà. Une personne, non, elle a même enlevé la puce là-dedans, tout ça. C'est juste pour faire une calculatrice. Mais les gens vont venir te dire, on dit, mais c'est un crime. C'est quoi ça? Pourquoi tu gâtes l'appareil? Il est là pour qu'on puisse appeler. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Mais maintenant, votre savoir-faire, c'est donc différent. Ça peut être différent de votre appel. Amen. Amen. C'est pas parce que je sais faire ceci que c'est forcément mon appel. C'est pas parce que je sais jouer au ballon que ça veut dire que je suis appelé à être footballeur. Alléluia. Peut-être que je suis appelé à être grand informaticien dans une structure. Mais en même temps, quand je joue bien au boulot, comme je joue bien au football, quand mon entreprise sort et qu'on fait des sorties, tellement je joue bien, mon patron veut davantage me garder parce qu'il y a une compétition inter. Voilà. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, avant la Sotra, ils ont leur équipe. CIE, tous ça, ils ont des équipes. Amen. Mais ils ne sont pas appelés à jouer au football. Alléluia. C'est pareil aussi pour votre vie. Comment retrouver votre véritable appel? Il ne se trouve pas dans vos compétences forcément. Vous ne pouvez connaître votre destinée réelle sans savoir appliquer la vertu de la fidélité. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez même pas savoir ce que c'est exactement. C'est quelque chose qui vient très flou à votre esprit, votre destinée, ce pourquoi vous êtes né. La Bible dit que ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins, un chemin tout tracé. Ça veut dire quoi? Que dans votre cœur, il y a un chemin qui est tout tracé. Mais vous ne le sentez, vous ne le voyez pas. La façon dont la vertu spirituelle qui permet de découvrir la voie que Dieu a tracée dans ton cœur avant que tu ne naisses, c'est la fidélité. Amen. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Or, c'est justement une des vertus qui fait grandement défaut. Nous refusons d'appliquer la notion de fidélité parce que nous avons notre proposition, nous avons notre manière de voir les choses, nous avons notre manière de voir le monde. Amen. Voilà donc ce dont nous avons parlé pendant ce temps. La fidélité, donc, c'est le cheminement vers la réalisation de votre appel. Alléluia. Alors, vous devez savoir ceci. Ces points que j'ai notés, qui résument un peu les choses qu'on avait dites. Pour devenir un leader selon Dieu, vous devez d'abord prouver votre fidélité. Dieu t'appelle, ma sœur, mon frère, à être un leader. À être un leader dans un domaine ou un autre. Mais, pour que Dieu t'élève à ton poste de royauté, de leader, ça veut dire pour que Dieu te donne de conduire des personnes, il faut que tu aies prouvé ta fidélité. Luc chapitre 12, verset 42 dit ceci. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Vous voyez encore la même chose en 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2 aussi en parle. Deuxièmement, Dieu regardera votre fidélité et non pas vos talents pour vous confier une grande responsabilité. Dieu ne va pas regarder vos talents pour vous confier une grande responsabilité, mais il va d'abord éprouver votre fidélité. Luc chapitre 19, verset 17, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. Le Seigneur voulait que ce monsieur-là dirige 10 villes. Mais pour qu'il lui donne les 10 villes, il fallait que cette personne-là ait d'abord prouvé sa fidélité dans les petites choses dont nous parlerons un peu tout à l'heure. Troisièmement, pour que Dieu vous donne plus de moyens financiers, il faut d'abord que tu aies été fidèle. Tu peux avoir une augmentation. Le monde a ses augmentations. Mais Dieu, il regarde la fidélité. Si depuis là tu es dans la galère et que ta galère perdure, c'est parce que tu n'es pas fidèle. Tu as dit, mais pasteur, je viens tous les jours à l'église. Non, je t'ai dit qu'il y a trois axes de fidélité. Si tes affaires ne progressent pas, c'est parce que tu n'es pas fidèle. Si tu es fidèle, Dieu va augmenter tes entrées. Si tes entrées ne s'accroissent pas, tu as un problème de fidélité. En dehors des épreuves. Voilà, parce qu'il y a un temps pour l'épreuve. Mais une épreuve qui ne finit jamais, depuis 50 ans de vie chrétienne, 50 ans d'épreuve, freine mon frère, arrête-toi un moment. Ne continue pas à dire, non, je persévérerai jusqu'à la fin. Persévérer dans quoi? Ça fait 50 ans, les choses ne vont pas. Tu vas persévérer, arrête-toi un moment. Dis, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup, tout le monde veut l'argent, mais les gens ne veulent pas être fidèles. Or, pour avoir de l'argent, il faut être fidèle. Luc chapitre 16, verset 11. Dieu va vous combler de bénédictions, comme je le disais tantôt, si vous êtes fidèle. Proverbe chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Proverbe 28, 20. Luc 16, 12. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, pour connaître, pour réaliser votre destinée, ce à quoi vous avez été appelé avant la fondation du monde, il faut que vous soyez fidèle, vous prouvez votre fidélité. Luc 16, 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Dieu lui-même, il est fidèle. Dieu est fidèle. Plusieurs passages de l'Écriture le disent. 1 Corinthiens 1, 9, Apocalypse chapitre 3, verset 14. La Bible en parle. Dieu est fidèle. Alléluia. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. La fidélité, c'est notre nature. Vrai. Donc quand tu es infidèle, tu es en contradiction avec ta source originelle, qui est Dieu. L'infidélité, donc, comme tu es en contradiction avec Dieu, ça te rend malade. L'infidélité crée des ulcères. Ça fait de la dépression quand on n'est pas fidèle. Amen. Alors la question qu'on se pose et qu'on s'est posée, mais c'est fidèle comment? Amen. Et je vous avais dit aussi ceci, n'oubliez pas, que la fidélité se voit toujours après l'épreuve. Avant l'épreuve, on ne peut pas parler de fidélité. Avant la frustration, on ne peut pas parler de fidélité. Tout le monde est prêt à suivre une personne fidèlement quand tout va bien. Mais on dira que tu es un serviteur fidèle lorsque des choses s'immiscent, viennent dans cette relation-là pour te tenter, pour t'amener à aller ailleurs, vas-tu demeurer ferme. Et c'est en ce moment-là qu'on dira que tu es fidèle. Amen. Alléluia. La fidélité, on a défini à peu près ce que c'était. Amen. Maintenant, la fidélité, en quoi? Comment? De quelle fidélité parle-t-il? La Bible nous dit qu'il y a trois axes d'action de la fidélité. Il y en a trois. Et quand Dieu dit un homme fidèle, il attend de cette personne-là qu'elle soit fidèle à ces trois niveaux. Amen. Si tu es fidèle à ces trois niveaux, Dieu considère que tu es fidèle. Si tu es fidèle à un seul de ces niveaux, tu n'es pas encore fidèle. Parce que pour témoigner de la fidélité, le Seigneur a cité ces trois choses. Amen. Et on voit cela dans le livre de Luc chapitre 16. La première des choses, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, il y a des choses que le Seigneur met à ta disposition. Ton attitude et ton comportement vis-à-vis de ces objets, de ces choses-là, va amener Dieu à te donner de grandes choses. Il dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donne les grandes. Donc Dieu ne donne pas des grandes si tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Satan peut te donner des grandes choses. Mais il va t'amener en enfer. Je parle de Dieu. Amen. La fidélité dans les richesses injustes. Luc chapitre 16, verset 11. Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et Luc chapitre 16, verset 12. Troisième axe. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Donc, on a la fidélité dans les choses, la fidélité dans les richesses injustes, la fidélité dans ce qui est à autrui. Dans la fidélité dans les petites choses ou dans les choses, nous avons parlé de la fidélité dans les paroles. Une des premières choses que Dieu t'a donné, c'est la parole. Veux-tu grandir dans ta fidélité? Veux-tu connaître ton destin? Veux-tu accomplir ce pourquoi tu es né? Respecte tes paroles, honore tes paroles. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne dis pas beaucoup de choses. Commence par t'exercer. Amen. J'ai dit que si tu demeures dans la galère, si le problème persiste dans ta vie, c'est dû à la pauvreté, c'est dû à l'infidélité. Tu me dis, en quoi suis-je infidèle? Je suis toujours à l'église. Tu es infidèle parce que tu ne respectes pas tes paroles. Ta parole n'a pas de poids, n'a pas de valeur. Ne marchez pas selon le diable. Satan est le père du mensonge. C'est lui qui inculque aux nations et au peuple le fait de ne pas considérer la parole donnée. C'est la raison pour laquelle ne promettez pas vite. Prenez le temps d'avoir vu votre capacité à obéir aux choses qui sortent de votre bouche. Même les petits rendez-vous de prière. Donnez de la valeur à vos paroles. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il y a un autre passage encore dans le livre des Proverbes qui dit ceci. La langue est un argent de choix. Proverbe 10, 20. La langue du juste est un argent de choix. T'es avec moi, ma langue. C'est de l'argent. Ça, c'est puissant, ça. Donc, tu as l'argent avec toi, là. Tu es riche. Oui, parce que tout est créé par ta parole et tout est détruit par ta parole. La Bible dit, mais ce n'est pas n'importe quelle langue, la langue du juste. Si vous ne prêtez pas attention à vos paroles, spirituellement parlant, vos paroles n'ont plus de poids. Vos paroles n'ont plus de valeur. Elles ne sont plus capables de créer. Quand vous déclarez des choses dans votre vie, les choses là vont arriver. Mais si tu dis, dans le nom de Jésus, je ne tomberai pas malade. J'ai une bonne santé dans le nom de Jésus. Toute la nature se met en branle-bas pour te permettre d'avoir une bonne santé. Quand les moustiques arrivent, la puissance de Dieu vient les tuer. Ou s'ils piquent ton sang, ils te piquent le sang, ton sang va les tuer. Donc vraiment, tu as une bonne santé. Moi, j'ai une bonne santé, je ne tombe pas malade. Alléluia. Maintenant, ça c'est ce que ta parole peut faire. Ta parole peut créer la mort comme la vie. Et il se trouve que toi, tu n'as pas de parole. Je viens et tu n'arrives jamais. Je ne viens pas et tu viens. Bon, à un moment donné, les anges et la nature ne savent plus où il est. On ne sait plus. Donc, tout le monde est fatigué. Et on ne t'écoute plus. Donc, quand tu dis, je ne tombe pas malade, on dit, lui, il fait toujours le contraire de ce qu'il a dit. Donc, quand tu dis, je ne tombe pas malade, tu dois tomber malade. Donc, je pense que si tu es infidèle à tes paroles, bon, il ne faut pas déjà tomber malade. Mais là, tu vas... Alléluia. Donc, il faut être fidèle. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu accroît la puissance qui est dans vos paroles. Tout est créé par la parole. Tout commence par la parole. Honorez votre parole. Respectez la parole. L'argent, la parole, est un, la langue du juste, c'est un argent de choix. C'est de l'argent. Gardez-le, gardez. Ne parlez pas, ne bavardez pas en vain, parlez haut comme ça. Non. Hein? C'est important ce qui sort de ta bouche. C'est précieux. Ne parle pas comme ça, ne t'engage pas. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, on a créé dans le français aussi les mots comme peut-être. Si tu sais que tu peux pas faire quelque chose, dis peut-être. Dis je ne suis pas sûr. Tout ça, ça existe dans la langue. Alléluia. Sache les utiliser. Sache les utiliser. Alléluia. Amen. C'est là que commence la fidélité dans les petites choses. Et ainsi de suite, nous avons dit cela déjà. Amen. Mais un élément que je n'ai pas sorti, c'est pourquoi je revenais là-dessus, c'est surtout la notion qu'on a vue dans Matthieu 25. En Matthieu 25, il est question de la fidélité dans les petites choses. En effet, au verset 21, par exemple, il est dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Vous avez ça à l'écran. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. En Matthieu 25, on a l'histoire du Seigneur qui est parti d'être et qui a donné des talents à ses serviteurs. Il leur a dit de les fructifier. Le premier a eu 5, il en a eu 10. Le deuxième, 2, il a eu encore 2 autres. Le dernier, le troisième, il a pris ce seul talent, il l'a enterré. Quand le maître est revenu, il a dit à ceux qui avaient fructifié leur talent qu'ils avaient été fidèles. De quelle fidélité parle-t-il ici? On parle de la fidélité dans les petites choses. Pourquoi? Les trois personnes n'ont pas abandonné Dieu. Le premier, le deuxième, comme le troisième, étaient toujours des croyants. Quand le dernier qu'on a jeté en enfer, lisez bien le passage, Dieu dit, mettez-le en enfer. Le dernier qu'on a jeté, on ne lui a pas reproché d'avoir rétrogradé, d'avoir dit, je ne crois plus en toi, maître. Il a continué à venir à l'église, continué à prier, continué à faire... Mais qu'est-ce qu'il n'a pas été? Il n'a pas fructifié. Il n'a pas rendu rentable ce que le maître lui avait donné. Ceux qui ont rentabilisé leur talent, Dieu les a traités de fidèles. Pas fidèles à lui, parce que les trois sont restés attachés à Dieu. Mais c'est dans les choses qui n'ont pas été fidèles. Et il dit à celui-là, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai des grandes. Ça a été quoi sa fidélité dans ce cas-là? C'est juste d'avoir pris 5 talents et d'en avoir eu 5 autres. Donc la fidélité dans les petites choses, c'est le fait de fructifier, d'amener tout ce que Dieu vous donne à s'accroître. Alléluia! Dieu te donne 1 000 francs. La dernière fois, on avait fait cette expérience. Je vous avais demandé de prendre de l'argent dans votre poche et de l'enlever et de regarder. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a certains qui voient ce qu'ils vont manger. Il y en a d'autres, par contre, qui voient quelque chose qui va être fructifié, qui va produire encore. Ça fait plusieurs temps que vous venez peut-être à l'église. Est-ce que vous êtes rendu compte que je vous ai, en tout cas, ma connaissance depuis plusieurs années, m'arrêter, c'est pour dire, frère, faisons une offrande pour acheter le prochain micro. Chaque temps, on renouvelle les micros. Mais je ne vous en parle même pas. La sono, les instruments. Vous savez pourquoi? À cause de la fidélité. Dans les petites choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette forme de fidélité? La première fois qu'on a fait des offrandes pour acheter la sono, on a décidé d'être fidèle. Comment c'est quoi cette fidélité? Chaque fois qu'on utilise, nous, la sono, on la loue. On loue notre propre sono. Il y a des sonos, il y a une sonorisation complémentaire quand même pour accroître. Mais nous-mêmes, notre propre matériel, on a une caisse, des instruments. Tous les mois, tout le matériel qu'on utilise, on se le loue nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. De sorte que la première sonorisation qu'on a acheté la seconde, la troisième, le micro, pendant que je suis en train de l'utiliser, il est non seulement amorti, mais il a fabriqué, après sa mort, quand il va mourir, il aura pu fabriquer au moins trois autres micros. Parce que chaque fois que je l'ai pris, ça ne me coûtait rien de mettre 1000 francs de côté. Juste parce que j'ai parlé dans le micro que j'ai acheté. Le micro, peut-être tu dois faire 300 à 400 000. Mais le temps qu'il meurt de fatigue par l'âge, si j'ai mis 1000 francs chaque fois que je l'utilise, quand même il peut rester au moins 4 ans, 5 ans. Je pense que je vais atteindre le montant et je pourrai acheter un deuxième micro. C'est ce que le Seigneur dit. C'est ça la fidélité dans les petites choses. Ce n'est pas, c'est juste que tout ce que Dieu vous a donné doit se multiplier. Le dernier serviteur qui allait en enfer, on lui a donné un talent, un don. Il a pris et il a enfoui sous la terre. Voilà son problème. Sinon, il n'a pas arrêté de prier. Hein. Mais il n'a pas été fidèle dans les petites choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia! Et je vous ai souvent cité ce passage dans le livre de la Genèse. Dieu dit ceci, que tous les fruits qu'il avait créés dans le jardin d'Éden avaient en eux leur semence. Et je vous ai dit ceci, tout ce que Dieu vous donne à consommer, 100 000 francs, c'est à manger, non? À l'intérieur, il y a une semence. Ça veut dire, tout ce que Dieu crée, il met à l'intérieur la capacité de reproduire à nouveau. Quand Dieu te donne une mangue, à l'intérieur, il y a un noyau. Quand Dieu te donne 20 000 francs, il a mis à l'intérieur de quoi créer les prochains 20 000 francs. Tu ne peux pas tout consommer. C'est de l'infidélité. Quelqu'un avec moi? Si tu manges tout ton argent avant la fin du mois, là, tu es infidèle. Ah, tu dis, mais non, parce que pourquoi je suis infidèle? Tu viens à l'église tous les dimanches, mais c'est pour ça que tu restes dans la galère. Parce que tu consommes tout. Mais parce que qu'est-ce que je vais faire avec mon petit salaire? 40 000 francs. Je ne sais pas comment. Débrouille-toi. Mais fais une épargne. Épargne. Vous savez, le dernier serviteur, est-ce que vous avez lu la phrase? Ramène-moi la dernière phrase. On lui a dit d'aller mettre l'argent sur les banquiers. Il dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Jésus est intéressé, hein? Même aller déposer l'argent à la banque pour que l'argent fructifie un peu, qu'il y ait un petit intérêt. Ça intéresse Dieu. Maintenant, ces talents-là, il y a beaucoup de choses. Les objets, il y a le temps. Dans la parabole parallèle de ce passage, il est dit qu'on avait remis un talent à 10 serviteurs. Le même montant. Là, le Seigneur parle de la notion du temps. Tout le monde a reçu 24 heures dans la journée. Vrai ou faux? Il n'y a pas une personne sur la terre qui a 26 heures par jour. Bill Gates a 24 heures. Toi aussi, tu as 24 heures. Comment vas-tu fructifier tes 24 heures? Tu es fidèle dans les petites choses quand tu rentabilises tout ce que tu as. Quand tu passes 4 heures de temps en train de bavarder et ne rien dire, hey, « Hé ma chère, je t'ai dit, tout va... » C'est de l'infidélité. Tu es fidèle à Dieu dans ta prière, mais tu es infidèle au temps que Dieu t'a donné. Tu es infidèle dans les petites choses. Il faut être fidèle dans le temps. Il y a des moments pour se divertir, c'est normal, de temps en temps, parce que tout ça même, c'est utile. Quand tu es fatigué, tu regardes un peu un film pour te détendre. Mais si le film devient ton passe-temps, c'est une mauvaise gestion du temps. C'est une infidélité. Si tu passes tout ton temps devant la télévision, tu es infidèle. La fidélité, c'est votre capacité à fructifier tout ce que Dieu vous a donné. Amen. Alléluia. Toujours donc dans les petites choses, c'est donner de la considération à tout ce que Dieu a mis à votre disposition. On avait dit cela la dernière fois, être reconnaissant à Dieu, faire en sorte que toutes ces petites choses donnent des fruits. Amen. Exercez-vous à cela, frère. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Amen. Par exemple, si tu payes 10 000 francs par mois de loyer, décide-toi de payer 15 000 francs. Prends la décision de payer 15 000. pars au propriétaire, tu lui donnes ses 10 000 francs, et puis 5 000 francs là, tu mets ça de côté, ça va créer ta prochaine maison. Ça va te donner ta prochaine caution. Amen. Si Dieu te donne une maison, tu es fidèle à cette maison-là, il va te donner une plus grande maison. Or, pour que Dieu te donne une plus grande maison, il faut que la petite maison que tu as donnée, tu puisses la rentabiliser. C'est ce qu'il a expliqué. Tu dois la fructifier. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Parce que la semence, lorsque tu la sèmes en terre, elle ne produit pas un fruit. Elle produit beaucoup plus de fruits. Ok. Et deuxième aspect, c'était la fidélité avec les richesses injustes. Donc, la fidélité dans les petites choses me donne les grandes choses. La fidélité dans les richesses injustes me donne les richesses véritables. La vraie richesse. Le trésor véritable. Si Dieu veut révéler le médicament du sida à une personne, qui choisira-t-il? Bon, je vais demander à... Dieu veut te choisir. Maintenant, il veut t'expliquer comment on fait le mélange pour sortir le médicament contre le sida. À qui est-ce qu'il veut expliquer la formule? À qui? Celui qui cherche. Bon, parce que, tous les médecins, les pharmaciens, donnez-moi des noms de molécules bizarres. Bon, est-ce que toi, Dieu peut t'appeler? Et puis il dit, frère, voici la révélation pour guérir le sida. Comment Dieu peut-il t'expliquer la formule si tu ne comprends rien? Rien. Tu ne sais même pas ça signifie quoi. Comment peux-tu te révéler la solution au problème? Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, c'est quoi la richesse en fait? De quoi il parle dans la richesse? La richesse, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce dont il parle, je vous avais expliqué le dimanche dernier, c'est la sagesse ou c'est la connaissance avec laquelle, ou les connaissances avec lesquelles les hommes se servent, que les hommes s'utilisent pour s'enrichir. C'est de ça qu'il est question. Et il dit ceci, il dit, dans le verset qui suit, dans le passage qui précède, pardon, il dit, les hommes de ce siècle sont plus avisés, sont plus prudents. La définition, le mot grec parle d'aviser. On peut même traduire par sont plus sages. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents, sont plus avisés, sont plus sages à l'égard de leurs semblables. Ils apprennent certaines choses. Alléluia. Pourquoi la Bible appelle ça des richesses injustes? Injustes dans le sens que, dans le sens d'illégitime. C'est une injustice qu'un esclave soit sur le cheval et qu'un prince soit à terre. C'est une injustice. Donc c'est une injustice que quelqu'un qui se moque des valeurs divines, qui ne croit pas en Dieu, qui s'en fout des principes de Dieu, qui prend l'argent qu'il a et qui va financer des bars de perversion, des boîtes de nuit de perversion pour détruire la société. C'est pas normal que cette personne-là ait l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu. Car nous disons dans nos prières, dans nos paroles, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent en ce moment n'est pas dans l'église. Elle se trouve dans leurs mains. Mais comment est-ce qu'ils font? C'est pas que l'argent leur tombe du ciel. Ils ont mis en place certains mécanismes, certains systèmes. C'est ça là qui fait leur richesse, leur savoir-faire. Alléluia. Alléluia. Donc, la richesse en réalité, la véritable richesse, c'est une sagesse. C'est la sagesse divine. On va voir quelques passages de Proverbes qui en parlent. Ramenez-moi les passages de Proverbes qui parlent de la sagesse. Faites vite, s'il vous plaît. Il dit... Proverbe chapitre 3, verset 6. Proverbe 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Proverbe 3, 15. Elle est plus précieuse. Elle, c'est la sagesse. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Continuons. Avançons. Projection. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe 8, 10. Préférez mes instructions à l'argent et à la science. Et la science a l'or le plus précieux. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que la sagesse, dans un autre passage, il dit ceci, dans sa main droite, elle a une longue vie. Dans sa main gauche, Elle a tous les trésors. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'expliquer dans ce passage? Il dit ceci. Si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, ça ne veut pas dire de devenir injuste, d'aller prendre l'argent du vol. Non. Si vous n'êtes pas fidèle à cette sagesse-là, qui vous donnera la véritable richesse? La véritable richesse, c'est la sagesse. Par exemple, comme je dis par exemple, la sagesse qui aide à produire des médicaments. À cause des médicaments comme ça, il y a des gens qui sont multimilliardaires. Les sociétés pharmaceutiques sont hyper puissantes à cause d'une certaine sagesse à créer. Et Dieu dit ceci aux croyants. Mais la vérité, si vous n'êtes pas fidèle à cette forme de richesse, vous n'obtiendrez pas la véritable. C'est quoi la véritable richesse? C'est la sagesse divine accompagnée de l'argent, de l'or, tout ça, qui vient véritablement résoudre les problèmes que ce monde connaît. Il y a dans la véritable richesse la solution aux problèmes de l'humanité. Problèmes financiers, les problèmes sociaux, tous ces problèmes-là sont solvables par la sagesse, par la richesse véritable. Elle vient pour répondre, parce que la richesse vient pour répondre aux besoins, elle vient pour répondre aux besoins. C'est pourquoi Dieu dit ceci, il va transférer la richesse des inconvertis, de ceux qui ne craignent pas Dieu, vers ceux qui le connaissent et ceux qui le craignent. Mais Dieu dit, il ne peut pas avoir de transfert si vous n'avez pas été fidèle à cette richesse injuste. Ça veut dire, si vous n'avez pas pris le temps d'apprendre, de comprendre, si vous n'êtes pas assidu, si vous n'êtes pas fidèle pour comprendre les choses, les mécanismes, Dieu ne vous donnera pas la véritable. C'est cela que j'illustrais tout à l'heure. Dieu s'apprête à donner à un frère parmi nous la solution du sida. Alors il veut te demander de mélanger benzoate. Dieu vient te parler. Benzoate en songe. Fils, benzoate plus. Donne-moi un nom. Quoi? Benzoate plus métazole plus. Non, tu es là. Tu dis, mes frères, Dieu m'a visité, m'a parlé en langue. Je n'ai rien compris. Il disait des mots. Benzababa. Mais j'ai rien. De quoi il parlait-il? La Bible dit que lorsqu'on prie en langue, là, si quelqu'un ne te comprend pas, tu es barbare. Donc, toute connaissance, tout domaine d'activité a un langage qui lui est propre. Et ce sont des codes. Alléluia. Frère, tu parles le français ici. Si Dieu veut se révéler à toi, est-ce qu'il va venir te parler en chinois? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que je lui ai fait? Bon. Alors, si Dieu veut nous donner les moyens pour financer le royaume de Dieu, pour construire des hôpitaux, comment va-t-il le faire si nous ne connaissons rien au domaine de l'économie et des finances? Rien. Dites-moi, frère, parmi vous, qui connaît la bourse? Tous ceux qui connaissent la bourse des valeurs, comme c'est d'Abidjan. Est-ce qu'on la connaît? Vous avez déjà entendu parler de cela? De toute façon, tous les jours, ça passe à la télé. Devant Dieu. Qui, lorsque ça passe, il zappe. C'est-à-dire que quand on met bourse des valeurs, BRVM Abidjan, croissance 2,2%. Ah, c'est quoi ça? Qui zappe? Disons la vérité devant l'éternel Dieu. Bon, vous voyez votre problème? Vous suivez la télé et chaque chaîne télé qui existe pratiquement, vous font toujours passer la bourse. Ça veut dire que dans le monde, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas ennuyeux. C'est là que l'argent s'achète et se vend. C'est là que se trouvent les milliards. Mais toi, tu zappes pour aller regarder, donne-moi le film, pour aller regarder, donne-moi un film. Quoi là? Fijolito. Fijolito. Hein? Mais attendez, tu es en train de prier, Père. Je veux financer le royaume de Dieu. Oh, regarde, Pasteur Salogo, il va en mission d'évangélisation. Je vais apporter mon aide. Si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, si tu ne t'assois pas pour comprendre comment la bourse fonctionne, ça passe toujours devant tes yeux. Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir pour comprendre comment ça marche? Est-ce que vous savez comment l'argent fonctionne? Lorsqu'il dit ceci, donne l'argent au banquier. Est-ce que vous savez ça signifie quoi? Tu ne comprends rien aux finances et tu veux que Dieu te donne l'argent. Il va te donner l'argent comment? Il va te parler comment? Comment est-ce qu'il peut te parler de bénéfices? Dieu peut discuter comment avec toi dans l'ignorance totale que tu as. On fait ça comment? Explique-moi comment on explique comment on gagne l'argent. Comment on explique ça? Dans quel langage va t'expliquer? Quel va t'expliquer la plus-value? Fais tel calcul, tel calcul. Quel va te donner les taux de ceci, les taux de cela? Tu vois là? Tu dis quoi? Si tu t'es préparé à faire une comptabilité, ta petite comptabilité, c'est comptabilité de CP1. 1 plus 1 égale 2. Je prends bénéfice, entrée, entrée, sortie. Voilà. Mais tu ne peux rester que là. Dieu ne peut pas te donner les richesses des nations. Or, tu es la solution pour l'hôpital qu'on doit construire à Touba. C'est toi qui l'avais appelé à le faire. Mais tu arrives, la bouse passe devant toi à la télévision. Hé, c'est quoi ça là? Zap ça. Mais les infidèles, les injustes, c'est tout cela qui regardent tous les jours devant leur télé. Et ils ont de l'argent, ils s'enrichissent, ils ont les milliards, et nous on ne comprend rien. Les gens ne comprennent rien. Ils ne savent même pas même ce qu'on dit. Bourse là même, c'est quoi? C'est quoi? Qui franchement ne comprend rien à la bourse? Qui lève la main pour se repentir? Qui comprend la bourse? Qui sait comment ça fonctionne? Un peu. Qui comprend bien? Ok, mes amis, Dieu dit ceci. Il y a une sagesse excellente que Dieu veut te donner, mais il ne peut pas te la donner si tu n'as pas été fidèle dans la sagesse que les injustes, les illégitimes gèrent. Ce n'est pas possible. Parce que la richesse, ces personnes-là ne sont pas parties prendre l'argent. Ils ne sont pas partis dévaliser. Ils ont travaillé. Ils ont compris des méthodes de financement, de placement. Et c'est ce qui leur a attiré les biens. Maintenant, ils s'en servent mal. Or, il y a une autre sagesse qui est la véritable. Une autre richesse qui est véritable, qui elle est céleste. Elle est supérieure à celle qu'ils ont. Mais Dieu, pour te la révéler, a besoin que tu apprennes. C'est ça. Si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Voilà pourquoi il y a la galère dans les églises. Personne ne va apprendre, on est tous là. Alléluia, alléluia. J'amène, on dit amène l'argent. J'amène, je prie. Mon frère, ta société est en train de tomber parce que tu ne comprends rien au domaine de la vente et du marketing. C'est pourquoi tu es en train de mourir. Père, je ne comprends pas. Le diable, les sorciers sont contre moi au marché. Pasteur, prie, mon produit ne marche pas. Tes produits sont mal présentés. On arrive à tout qu'on n'a même pas envie de manger ton aloko et ton acheke. Les mouches sont là partout. Quel démon? Il n'y a pas de démon. Le démon, si c'est toi, c'est presque toi. Chasse tes mauvaises habitudes. C'est qu'elle a fait ça. Mon aloko, venons prier, prions. J'ai commencé un commerce aloko. Que Dieu bénisse. Ribaba, chakara, baba, baba, baba. Rien. On arrive là-bas. Sale. Un aloko même là. Hein? Tu parles mal aux clients. Et puis, mais attends, ils vont revenir comment? Apprends la sagesse du marketing. Va, demande aux gens, demande aux autres. Comment est-ce qu'ils vendent? Tu penses qu'ils prient? Les païens, tu penses qu'ils prient? Tu as vu comment les structures, les oranges, comment ils travaillent? Apprends leur sagesse. Apprends leur sagesse, apprends à vendre. Ça s'apprend. Tu dis non, les clients, c'est Dieu qui les attire. C'est Dieu qui amène. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la prend à qui il veut. Continue comme ça, continue. Dieu donne la sagesse comme. Forme-toi. C'est pourquoi il y a des fois, vous devez aller travailler dans des endroits, même pas pour qu'on vous paye, juste pour apprendre, pour comprendre. Moi, je sais que demain, l'église va gérer beaucoup de milliards. C'est pourquoi je m'informe. Je suis parti en France la dernière fois, j'ai pris plein de livres sur l'économie, les finances et la gestion. Vous pensez que parce que je suis pasteur, Dieu va me révéler comment on gère l'argent? Quand il va m'expliquer même comment on gère, là, est-ce que je vais comprendre son langage? Il va m'expliquer, fils, voici les bénéfices. Quand tu fais une valide de combien de pourcents, est-ce qu'il peut me parler? Parce que mon cerveau n'est pas formaté, je ne comprends rien. Oh, Dieu peut me parler quand déjà j'ai posé le fondement en me formant. Alors, il va me révéler une sagesse que même les hommes de ce siècle n'ont pas connue. Alléluia. Il va me révéler un savoir-faire que les hommes de ce siècle n'ont pas connu. Mais pour te révéler un savoir-faire que les hommes de ce siècle n'ont pas connu, apprends d'abord ce que les hommes de ce siècle ont connu. C'est pourquoi il dit, les fils de ce siècle, est-ce qu'il a dit, sont plus avisés que les fils de la lumière. Pour une première fois dans la Bible, Dieu loue les païens. C'est eux qui connaissent l'agriculture. On ne connaît rien. On prie seulement sur nos plantations pour qu'elles poussent. Ça n'a qu'à pousser. Apprends comment est-ce qu'on rentabilise la plantation. Comment faire irriguer. Apprends. Si tu n'as pas les moyens, prie maintenant pour que Dieu pourvoie. Cherche dans quoi est-ce que tu dois être fidèle pour que Dieu pourvoie. Est-ce que c'est dans les petites choses? Est-ce que tu ne gères pas bien ton argent? Apprends à bien le gérer. Développe-toi. Sois fidèle. Fidélité dans les petites choses. Fidélité dans les richesses injustes pour avoir les véritables. Alléluia. Si vous vous mettez au travail, si vous osez agir, Dieu va commencer à vous bénir. Dieu va commencer à vous élever. La durée de la vie, c'est Dieu qui la donne. Il ne faut pas dire, déjà vieux, tu es vieux par rapport à quoi? Si Dieu dit que tu vas atteindre 140 ans, tu vas atteindre 140 ans, qui va te tuer? Donc, même si c'est à 80 ans que tu as commencé à apprendre, forme-toi. Travaillez sur vous-même. Et ce frère-là, c'est difficile. Mais je vous dis, moi maintenant, les fois, il me fatigue. Quand il m'appelle pour que je l'aide pour payer son... Ah, parce que ça ne va pas sur moi. Chaque fois, une fois, il était abattu. Il dit vraiment, je suis au Ghana, c'est difficile. Mon loyer coûte cher. Quelquefois, pasteur, j'ai envie de baisser les bras. Je dis, Dieu qui t'a appelé va te faire aller jusqu'au bout. Il n'a pratiquement personne pour le soutenir. Mais il a passé, il a fait une année, il faisait, comment il a fait? Parce qu'il ne savait pas l'écrit, donc il a commencé. Il fait une année, en une année scolaire, il peut faire 2 à 3 classes. Tellement il était décidé. Donc rapidement, il a fini le CP, BPC. Il a eu une, il n'a pas eu le bac, mais il a utilisé, comment on appelle ça? Un genre de, bon, là, donner un genre de capacité d'attitude. Et puis sur cette base-là, il s'inscrit directement dans une école au Ghana. En ce moment-là, il est bilingue. Il parle français couramment, anglais couramment. Et en économie, dans le domaine de la finance. Et du marketing. Est-ce qu'on est ensemble? J'attends, quand il va finir son diplôme, il va travailler là. Il va l'appeler, il dit, viens expliquer ton témoignage. Viens toi-même, tu vas expliquer ton témoignage. Soyons fidèles, frère. Fidèle, c'est apprendre. Pourquoi fidèle? Parce que décider de prendre ce chemin, ce n'est pas facile. Tu vas vivre des revers. Quelquefois, financièrement, tu n'auras rien pour continuer ton diplôme. Même si une année, tu as manqué, continue. C'est en cela qu'on parle de fidélité. La fidélité est vraie après l'épreuve. Une année, tes parents, personne ne t'a donné l'argent pour payer ta formation. Ce n'est pas grave. L'année prochaine, reprends. La vie entre les mains de Dieu. Forme-toi. Continue d'apprendre. Si tu fais quelque chose, apprends. 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 Forme-toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et ce par quoi on finit cette série, donc, c'est la fidélité aux choses d'autrui. C'est ce qu'on appelle aussi couramment la loyauté. Amen. Généralement, lorsqu'on pense fidélité, les hommes voient plus ce côté-là. Mais ils oublient quelquefois les deux autres choses qui ont précédé. Fidélité dans les petites choses. Fructifier les choses qu'on a. Considérer tout ce que Dieu nous donne. Quelque chose soit si petite ou grande. Lui donner de la valeur. Ça, c'est la fidélité dans les petites choses. C'est un axe de la fidélité. Deuxième axe de la fidélité, c'est la persistance et la persévérance à apprendre, à se former. Il faut être déterminé à vous former. Ne jamais baisser les bras pour apprendre. Parce que c'est là que vous acquérez la sagesse et c'est le savoir-faire qui crée la richesse. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous avez l'onction de Dieu. Et la grâce de Dieu venant sur vous va multiplier. La troisième chose, vous pouvez avoir de la richesse, vous pouvez avoir des financements, mais vous pouvez ne pas entrer dans votre destin. Pour entrer dans votre destin exactement, là par contre, c'est la fidélité à ce qui appartient à autrui. Alléluia, c'est la fidélité aux personnes. On va lire par exemple Josué. Josué, chapitre 1, verset 1, il dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Nombre 11, 28. Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Deux Rois, chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau dans les mains de Élie. Amen. Ici, il est question de personnes qui sont entrées profondément et puissamment dans leur destinée. Et j'en ai d'autres encore. Le premier, c'est Josué qu'on a cité ici. Josué est un grand serviteur de Dieu. C'est ce Josué-là qui a prié et le soleil s'est arrêté dans le ciel. Cet homme était investi d'une onction puissante. Cet homme était appelé à prendre la place de Moïse et à faire entrer Israël dans la terre promise. Comment est-ce qu'il y est arrivé? La Bible dit ceci, on présente Moïse, on dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. C'est une parole qui choque les hommes, mais c'est ce que la Bible dit. Josué, avant de devenir pleinement le serviteur de Dieu, était d'abord serviteur de Moïse. Et c'est ce que les hommes refusent. Comment? Moi, je ne sers que Dieu. Je ne sers que Dieu. Quoi? Servir un homme? Moi, je ne sers que Dieu. J'ai pour maître Dieu. Frère, ça ne commence pas comme ça. On parle encore de Élisée. On dit que, on le présente Élisée. On dit, voici Élisée, celui qui versait de l'eau sur la main de Élie. Son travail, laver la main du prophète. Qui est cet Élisée? Nous connaissons tous le grand prophète Élisée. Cet homme par qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Voilà ce qu'il a dit de cet Élisée. Élie, le prophète. Tout le monde connaît Élie. Alléluia. Un des prophètes les plus puissants que les Écritures aient connus. La Bible dit même que Jean-Baptiste avait son onction. Tellement il était oint. Un homme qui n'a pas connu la mort, qui est monté directement au ciel. Cet homme-là a reçu la révélation de Dieu que Élisée était son remplaçant. Il va voir Élisée. Il lui dit ceci. Dieu t'a choisi pour être prophète à ma place. Élisée accepte la mission. Mais, mes amis, Élisée ne pouvait pas rentrer dans son destin, atteindre sa destinée, sans avoir prouvé sa fidélité à Élie. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les mains. Mais quand vous lisez l'histoire, Élie va éprouver la fidélité d'Élisée. Pas le talent, pas la capacité, mais la fidélité. Et mes amis, souvent c'est à ce niveau-là que vous échouez. Vous refusez dans votre cœur de servir autrui. Vous refusez. Et c'est ça, et ça, c'est de l'orgueil. C'est une forme d'orgueil. On ne peut pas comprendre que nous, si intelligents, si puissants, dans un domaine de notre vie, parce que ce n'est pas dans tous les domaines, je dois servir quelqu'un. Alléluia. Quand il dit c'est pas dans tous les domaines, ici tu es à l'église, dans ton domaine où tu travailles là-bas, tu peux pas aller servir le pasteur, tu vas me servir. Comment? Quand tu travailles, par exemple, la Côte d'Ivoire, Télécom, tu vas me servir. Non, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Et on refuse cela. Pour que Élisée entre dans son destin, quand je vous ai dit en introduction, qu'on peut être excellent dans beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas parce qu'on est excellent dans des domaines particuliers qu'on a atteint notre destin. Qu'on a atteint notre destin. Lui, son destin, il était appelé à être prophète. Et pour recevoir l'onction du prophète d'Élie, parce que Dieu a dit à Élie ceci, j'ai choisi Élisée pour être prophète à ta place. Mais il va dire ceci à Élisée, suis-moi. À un moment donné, il va éprouver. Il dit, Élisée, reste ici. Je m'en vais dans un autre endroit pour annoncer la parole. Élisée dit, entre parenthèses, ton pied, mon pied. Élisée l'a suivi. Où tu vas? Je m'en vais aussi. Il était là. Hein, comme on dit, un peu comme quelqu'un qui est un peu bête. Mais il le suit. Parce que c'est ça à quoi tu l'as appelé. Et à un moment donné, lorsque Élie allait monter au ciel, il a dit ceci. Élie lui demande, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il dit, ok. Si tu arrives à me voir pendant que je pars, c'est ça, mes amis. Si tu arrives à me suivre, si tu arrives à garder les regards sur moi, alors tu recevras mon manteau. Alors, je ne comprends pas cette parole. Dieu avait déjà prophétisé que Élisée devait être prophète. Donne-lui l'onction en même temps. Donne-lui l'onction en partie. Quelle est cette histoire d'éprouver quelqu'un pour réaliser ce que toi-même, Dieu, tu as prophétisé? Parce qu'il y a des épreuves là-dedans. Ce qu'on a prévu te donner, là, on doit te fatiguer encore. Alléluia. Et quand Élie est monté, Élisée l'a suivi. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et le manteau est tombé, il a pris le manteau. Et c'est là qu'il a reçu la double portion de l'esprit. Vous avez votre destin. Vous avez aussi beaucoup de choses que vous savez faire dans la vie. Mais ce n'est pas forcément votre destin. Votre destin se trouve selon ce que dit Luc chapitre 16, verset 12. Si tu n'as pas été fidèle à ce qui appartient à autrui,
qui te donnera ce qui est à toi. Qui te donnera? Donc, tu ne peux pas obtenir ce qui est à toi si, au préalable, dans un domaine particulier de ta vie, tu n'as pas décidé la fidélité et le servir. Fidèle, ça veut dire servir la personne fidèlement, avec honnêteté, travailler pour que cette personne-là atteigne son destin à elle. Je vous ai cité l'exemple de David, fidèle à son père, qui ne le reconnaissait même pas, qui ne s'occupait même pas de lui. Mais David était capable de donner la vie, sa vie, pour les brebis de son père. Quand Dieu a regardé cela, Dieu lui a confié Israël. Moïse, il était appelé à sauver Israël de l'esclavage. Mais Dieu va d'abord l'éprouver. Est-ce qu'il était capable d'être fidèle à Jéthro? Moïse a prouvé sa fidélité à Jéthro avant d'entrer dans son destin. Pleinement. C'est un fait biblique, mes amis. Alléluia. Alléluia. Dis à un voisin, tu dois être fidèle. Amen. Donc, vous pouvez déjà faire de très bonnes choses dans votre vie. Parce que la Bible dit beaucoup de personnes proclament leur bonté. Mais la fidélité, est-ce que vous acceptez? On est souvent trop compétent pour pouvoir travailler sous une personne. Il sait des choses, moi aussi c'est des choses. Il a son domaine, moi aussi j'ai mon domaine. Il y a des personnes qui ne peuvent pas servir à l'église parce qu'elles n'ont tant qu'elles sont pas, on leur a pas donné le poste de responsabilité. Pourquoi tu ne sers pas? Parce qu'on ne t'a pas mis responsable. Tu souhaiterais bien qu'on te laisse là, toi-même tu diriges avec ta sagesse. Mais si tu dois arriver, quelqu'un va te dire, va à droite. Non, 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 non. Toi-même, tu sais déjà ce que tu dois faire. Va à droite, va à gauche, tu peux pas. Non, tu ne peux pas supporter ça. C'est ce qui fait que tu n'entres pas dans ton destin. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Alléluia. C'est une forme d'orgueil. Sois fidèle. Veux-tu entrer dans ton destin? Sois fidèle. Tiens, voisin, sois fidèle. Ce n'est pas compliqué. Décide. Ça marche. Amen. Ça marche. Alléluia. Alors, je peux noter 14 points. 14 points pour parler de la fidélité à autrui. En fait, dans le troisième axe de la fidélité, il y a deux choses. Il y a fidèle à des personnes. Et il y a fidèle à ce qui appartient à ces personnes. Donc, dans ce cas, vous travaillez dans l'entreprise une tierce personne. Vous devez rechercher que cette entreprise-là puisse aller de l'avant. Vous devez être une bénédiction pour cette personne partout où vous êtes. Quand en agissant de la sorte, vous vous préparez vous-même à votre propre destin. Premièrement, première chose sur les 14 points. Cherchez à connaître l'esprit et les aspirations profondes de ceux chez qui ou avec qui vous travaillez. Si vous voulez être fidèle à autrui, si j'arrive dans une église, je travaille dans une entreprise, quel est l'esprit de l'entreprise? Où est-ce que l'entreprise va? Qu'est-ce que l'entreprise souhaite? Je dois être fidèle. Je dois rechercher à ce qu'elle atteigne. Je dois me donner à fond pour qu'elle atteigne son but. Amen. Ce n'est pas ma boîte, je suis juste qu'un employé. Vous allez vous trouver aussi dans des structures que vous n'avez pas choisies. Comme je vous ai donné en vous citant l'exemple de Joseph, Joseph a reçu dans un songe sa destinée. Il a vu qu'il allait régner, mais il n'en savait pas la forme exacte. Pour le conduire vers cette forme exacte, il va devoir être fidèle chez Potiphar. Travailler avec diligence, servir un homme fidèle en prison pour que Dieu, et c'est ce cheminement qui va amener Dieu à le conduire là où il avait montré. Il avait vu qu'il allait régner, mais il n'a jamais vu qu'il allait être esclave. Dieu, avant de te faire régner, te donne d'être esclave. Certaines personnes ici ont reçu que c'est elles qui devaient financer, qui ne peuvent pas financer, mais que Dieu les avait choisies pour soutenir financièrement cette œuvre, pour bâtir de grandes œuvres. Mais tu vois, tu n'avances pas vers la position de roi que tu dois avoir parce que tu refuses de passer par l'école de la fidélité. Donc je dis, il faut chercher la vision de la personne. J'arrive à vase d'honneur. Je viens, j'ai décidé d'être dans cette église. Quelle est la vision? Où on parle? Et je dois être fidèle à cette vision. Rechercher, prier pour la vision. Chercher, prier Dieu. Personne ne dit, on s'en va à Touba. C'est pas que ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Et mon Touba là, oh non, ça ne m'intéresse pas. Je suis un gars d'Abidjan. Touba,
En effet, quoi là-bas, les sourcils qui sont là-bas. Là. Moi, ce n'est pas mon appel. Mon appel, mon frère, parce que c'est l'appel du pasteur et que tu as décidé de venir, ça devient aussi ta vision. Parce que pour que toi, tu entres dans la réalisation de ta vision, il faut que tu sois fidèle à la réalisation de ce que moi, Dieu m'a dit. Dieu ne doit pas venir nous parler en démocratie. Vas-y, asseyez-vous. Vers quel endroit vous voulez partir? Tout bas, ça vous plaît? Et puis on choisit. Moi, je ne vais pas tout bas. Moi, je vais au Korogo. Moi, je vais au... Et puis nous tous, on est là. Oh, on va faire un vote. À l'unanimité, on a décidé de rester à Abidjan. Et puis tout cela. Amen. Dieu va nous prendre, il va nous vider tous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a reçu? On dit tout bas. Je ne peux pas aller physiquement. Père, étends ta main. Soutiens ce programme. Manifeste ta grâce. Ça devient mon sujet de prière. Mais tu t'en fous même de ce qu'il a dit. Toi, ce qui t'importe, c'est toi, ta vie, tes sujets de prière, ton argent, ton entreprise. C'est tout ce qui t'intéresse. Sa vision, on va la soutenir un peu, on va le soutenir. On va le soutenir. Quel soutenir? On dit d'être fidèle. Avant que tu soutiennes, Dieu demande que tu sois fidèle. Tu peux soutenir quelqu'un sans être fidèle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc recherche la vision. Deux, mettez du dévouement à faire réussir la mission. Trois, travaillez à affermir son autorité. Ne soyez pas un instrument rebelle. Travaillez à affirmer son autorité. Quatre, soyez honnête. C'est ça la fidélité. Soyez honnête avec la personne. Amen. Soyez honnête avec elle. Soyez vrai. La fidélité aussi, ça parle de l'intégrité, de l'honnêteté. Couvrez-le, c'est-à-dire couvrez le porteur de la vision. Couvrez la personne. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, parlez-en avec elle. Avec considération. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez-lui la question. C'est aussi ça de la fidélité. La fidélité peut permettre à un leader de revenir sur le chemin. Parce que vous, vous percevez la vision. Et vous avez l'impression à un moment donné que peut-être qu'il est en train de sortir. Tu peux lui parler. Homme de Dieu, est-ce qu'on est toujours dans le plan là? Parce que quelqu'un peut trébucher. Ça ne veut pas dire que l'homme qui est devant vous est parfait. Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Ce n'est pas ce dont le Seigneur parle. Amen. Sixième point qui est important. Ne vous servez pas vous-même. Ou bien ne vous servez pas de cette personne pour atteindre vos propres objectifs. Ça, c'est de l'infidélité. Et c'est le cas, et c'est la grande raison que le Seigneur m'a révélée, pour laquelle la plupart d'entre nous n'entrent pas dans leur destin. Très souvent, lorsque le monde de la démocratie et l'Occident qui nous a colonisés a fait savoir aux gens dans les pays à connaître leurs droits. Quand vous parlez, il y a des personnes, mes droits. Mais les gens ne pensent pas à mentalité et mes devoirs. Que dois-je faire? Amen. Mes droits, c'est qu'est-ce que je gagne? La mentalité, une mentalité donc qui maintient les hommes dans la pauvreté et le fait qu'ils n'atteignent pas leur destinée, c'est justement cela. Chacun vient dans une vision avec ses propres intérêts. Oh, il y a les plus grossiers. Par exemple, vous avez vu? Ah non, je suis passé à Sanogo. Il y a du monde là-bas. Moi-même, j'ai mon CD là. Je suis un chanteur. Ça là, vraiment. Je vais faire tout. Entrer dans ces 4 mètres là. Vous venez chanter au culte. Si je chante au culte, tout le monde va acheter mon produit. Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que tu aies un produit. C'est très bien. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand tu viens devant, est-ce que c'est pour te servir de la vision d'autrui pour tes propres intérêts ou c'est servir véritablement la vision du pasteur? La plupart des personnes réfléchissent à qu'est-ce qu'ils gagnent et non pas qu'est-ce qu'ils donnent. Mon frère, c'est pourquoi tu tournes en rond. Quand on arrive ici, je laisse les gars. Oh! Est-ce que le message m'arrange? Non, on ne cherche pas à ce que ça t'arrange. Dis-toi, est-ce que ma présence dans cette église-là arrange cette vision? Si tu commences à raisonner comme ça, tu raisonnes dans le plan de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Alléluia. Alléluia. On dit, oh, vase d'honneur, il y a du monde là-bas. Et il y a du beau monde. Moi, je vais venir dans cette église parce que je vais chercher du travail. On dit, mon frère, si tu cherches travail à Abidjan, va, vase d'honneur. Donc, tu arrives ici à l'église, tu es zélé pour qu'un frère te remarque et qu'on te dise, que fais-tu dans la vie? Amène-moi ton CV. Et puis, qu'on t'embauche. Tu n'es pas fidèle. C'est de l'infidélité d'entrer dans une vision pour chercher sa propre vision. Je viens. Ah, il paraît qu'à vase d'honneur. Il y a les hommes là-bas, on se marie. Vase d'honneur, non, on se marie. Allons nous marier à vase d'honneur. Donc, quand tu as assis, tout ce qu'on dit là, c'est trop long. Je vais me marier. Infidélité. Tu risques de pas entrer dans ton destin. Tu as besoin toi aussi de te marier. Tu dois trouver du travail. Tu as besoin de vendre ton CD ou ton produit. Mais ce n'est pas ce qui est important pour toi. J'arrive dans la vision. Dieu m'a dit de rejoindre cette communauté. Seigneur, je bénis ton nom. Qu'est-ce qu'ils font? Dimanche, les gens viennent tôt ici pour faire le travail. Père, étends ta main. Bénis le culte. Quand les hommes viendront, que leur vie soit transformée. Je recherche de tout mon cœur que la vision soit béni. Et quand je vais rechercher qu'elle soit bénie, Dieu dit, moi-même, je serai béni. Mais si je recherche ma bénédiction au travers de la vision d'autrui, je ne la trouverai jamais. Mais si je recherche que lui, il atteigne sa vision, alors moi-même, je trouverai ma propre vision. Ce qui est à moi. Si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Septième point, semer dans la vie. Si vous avez une personne, n'hésitez pas. Si vous avez un patron, de temps en temps, faites-lui une offrande. Semer dans sa vie. Semer dans la vie des personnes qui sont dans une dimension que vous voulez atteindre. N'ayez pas peur, faites une enveloppe, faites une offrande. Alléluia. Faites une offrande. Priez pour la vision. Soutenez-la. Ça ne veut pas dire forcément d'être dans un groupe où on va vous voir. Non, soutenir une vision, ça peut être dans la discrétion. Mais ça peut être du fond de votre cœur. Vous recherchez vraiment que ça puisse aller de l'avant. C'est ça la fidélité. Décidez d'être fidèle et ne suivez pas vos émotions. Huitième point. La fidélité est une décision. Si vous suivez vos émotions, vous n'allez pas être fidèle. Parce que justement, on parle de fidélité après même que vous ayez été frustré. Il est probable qu'un jour, le pasteur, qu'un jour votre responsable hiérarchique, qu'un jour la personne avec laquelle vous êtes, vous frustre. La fidélité, c'est justement de dire, ce qui m'a fait, c'est vrai, ça m'a fait mal. Mais j'ai décidé d'être là, je vais aller jusqu'au bout. Seigneur, étends ta main, pardonne ce qu'il a fait. Je viens de découvrir peut-être une de ses faiblesses, garde-le, soutiens-le, étends ta main, guéris-le de cette plaie, au nom de Jésus. Décidez d'être fidèle, ne suivez pas vos émotions. La fidélité commence dans vos pensées. Neuvième point. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme, ou bien quelqu'un et la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Et l'adultère est de l'infidélité aussi. Donc l'infidélité peut se commettre dans les pensées. Si vous voulez être fidèle, il faut amener vos pensées à aller dans le sens que vous venez de décider aujourd'hui. Amen. Dixième point, comme Judas, ne laissez pas les frustrations détruire votre fidélité. Judas a été frustré de ce que Jésus n'ait pas accepté sa proposition. N'est-ce pas, de prendre le parfum d'albâtre et de le donner aux pauvres, de le vendre pour le donner aux pauvres. Il était frustré de l'attitude de Jésus. Et c'est juste après ça qu'il a livré Jésus-Christ. Arrêtez d'être vexé. C'est une forme d'égoïsme. Oh, on ne m'a pas arrangé aujourd'hui. Les choses, telles choses ne vont pas dans mon sens. Telles choses ne me plaisent pas. Ce qu'on m'a dit, d'accord. Tant que tu seras au centre, tant que tu n'as pas renoncé à toi, tu n'entreras pas dans ce qui t'est promis. Amen. Onzième point, ne laissez pas les points divergents vous amener aux critiques et à la rébellion comme Myriam et Aaron. Myriam et Aaron sont les frères de Moïse parce qu'ils ont commencé à travailler avec Moïse depuis le début. Ils sont devenus indépendants, ils ont refusé de l'être fidèles. Ils n'ont pas été d'accord avec lui sur le point quand Moïse a pris une femme éthiopienne. Ils ont commencé à critiquer. Dieu les a frappés à cause de leur rébellion. Prenez garde à ceci. Vous pouvez ne pas être d'accord avec votre leader. Partagez avec lui. Ne le critiquez pas. Dites, patron, vraiment, Pasteur, vraiment, je vous vois. Et si tu n'as pas accès au pasteur pour lui en parler, intercède. Dieu entend ta prière. Il est capable de le changer. Amen. On n'a pas tous l'opportunité d'avoir accès quelquefois aux autorités, mais on peut prier l'Éternel pour elles. Ça, c'est de la fidélité. Douzième point, la fidélité est d'abord donnée à l'autorité supérieure. C'est pourquoi vos valeurs chrétiennes ne doivent pas être corrompues. Qu'est-ce que ça signifie? Si je suis dans un groupe, j'ai un responsable, je lui suis fidèle. Lui aussi, il est fidèle à l'autre responsable. En vérité, la fidélité est toujours à l'autorité supérieure. Si le responsable de mon groupe, de mon département, se rebelle contre l'autorité, je ne serai plus, je ne vais pas suivre mon responsable direct, je vais suivre l'autorité supérieure. Vous comprenez, non? Alléluia. C'est pour cela, donc, ça commence par Dieu. Dieu dit, tu ne voleras pas. Tu arrives, tu travailles dans l'entreprise, le patron dit, volant et trichant, non. Toi, d'abord, tu es fidèle à Dieu. On est fidèle à l'autorité supérieure. Tu travailles dans une entreprise. Ton patron directement veut te faire signer des faux papiers et te faire tricher contre la société. Ce n'est pas à ton patron, c'est pas ton patron qu'il faut suivre. Parce que lui, il est devenu infidèle. C'est un rebelle. Tu suis l'autorité supérieure. Amen. Mais à ton patron présent, tu vas lui parler avec politesse et respect. La Bible dit que malgré le fait que Satan se soit rebellé, ait été infidèle à Dieu, il est dit que Michel, le jour où il discutait le corps de Moïse avec Satan, la Bible dit que Michel même n'a pas injurié le diable. À cause du rang que Satan avait, il lui a parlé avec considération. Respectez les personnes. Même si elles sont devenues, elles ont rétrogradé, honorez-les. Mais soyez toujours fidèles à l'autorité supérieure. Amen. Amen. J'arrive dans l'église, on a un petit groupe qui commence à prier. Il dit, oh, prions pour le pasteur. Il est sorti de ceci, il est sorti de... Toi là, ton cas, sois fidèle à l'autorité supérieure, le pasteur, pas au responsable qui est là. Amen, amen, amen. Amen. Donc tant que cette personne-là marche dans le sens de la vision, c'est bon. S'il n'y a, douzième point, s'il n'y a pas d'autorité supérieure sur vous, soumettez-vous et soyez fidèles à vos paroles et à Dieu. Vous savez, Dieu n'a personne sur lui. Amen. Mais Dieu est fidèle à quoi? À sa parole. La Bible dit que Dieu est fidèle. Quand Dieu dit une chose, il est fidèle. Si vous travaillez dans une structure où vous-même vous êtes votre propre patron, c'est une très bonne chose. Mais en quoi vous devez être fidèle? À ce que vous dites, à vos engagements. Amen, amen, amen. Prospérez dans vos entreprises privées, c'est très bien. Mais de toute façon, dans un domaine ou un autre de votre vie, vous aurez à travailler avec d'autres personnes. Par exemple, vous pouvez avoir votre structure d'informatique, votre atelier de couture. Mais avant cela, vous êtes membre de l'église. Soyez fidèles ici. Amen. Dans votre propre boîte, soyez fidèles à vos paroles, à vos engagements. Alléluia. Ce que vous dites, vous devez l'honorer. Amen. Ça va fortifier votre autorité. C'est comme ça même Dieu travaille. La Bible dit que Dieu lui-même, il a mis sa parole au-dessus de lui. Imaginez-vous Dieu qui vient et puis il dit, demain, je te visite. Et puis demain arrive et puis il dit, je ne veux plus venir, je ne te visite plus. Est-ce que c'est Dieu? Tu as dit, non, ça c'est pas Dieu ça. Voilà, donc on reconnaît Dieu parce que ce qu'il a dit, il le fait par la parole. Donc je suis chef de ma propre boîte, il n'y a personne sur moi. Ma parole est mon autorité. La Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et nous terminons. Et la fidélité pour le dernier point, c'est la capacité à rester focalisé sur votre vision. Amen. La foi pleine, ou bien la plénitude de la foi. En anglais, faithfulness. Amen. Fidélité. Vous avez une vision. Ne détournez pas le regard. C'est être fidèle aussi. Amen. La vie va souvent vous entraîner de fortes oppositions. La plupart des oppositions, surtout par exemple les oppositions comme les critiques, viennent pour vous amener à vous défocaliser du but. Par exemple, vous avez vu ici, on est jamais venu un dimanche où je dis oui, j'ai entendu que tel me critique. On raconte ceci de moi dans la ville. Oh, parce que les gens racontent des choses aussi. On parle. J'en parle. Pour l'exemple, je cite, j'avais des amis dit, même des personnes même que je comptais vraiment comme des amis. Oh. L'enseignement sur les 12 tribus, c'est quelle hérésie ça? Parce que ça nous s'est détourné de la voie de Dieu. Mais j'en parle jamais. C'est pas. Parce que l'objectif de ce genre de choses, c'est de faire en sorte que, au lieu de regarder le but, vous tournez les regards et que vous partez vous asseoir pour régler ces problèmes. C'est une distraction. C'est une forme d'infidélité. Soyez fidèle au but. Allez-y. Si les personnes sont à côté de toi, que tu peux les rectifier, tu dis, c'est pas vrai ce que tu dis. Si elles prennent gloire à Dieu, si elles n'ont pas pris aussi, on avance. On avance vers le but. Là, je parle à quelqu'un. Tu t'attardes trop sur ce qu'on dit de toi. Et ça te met en retard en ce qui concerne le but. Jésus a dit à ses disciples qu'il avait envoyés, il a dit, allez dans la ville, annoncez la parole. En chemin, ne saluez personne. Il est tout simplement de dire, quand tu as un but dans la vie, ne t'assois pas pour faire les causettes autour. C'est un manque de fidélité. Beaucoup de gens qui avaient de grandes visions se sont arrêtés net parce qu'ils ont pris le temps pour aller régler les palabres. Soyez focalisés. Dis à un voisin, sois focalisé. Tu as un grand destin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur, notre Dieu?
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.